Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Le lançon, c'est un poisson bien mignon qui ressemble à une sardine anorexique. Il est bien mignon, mais ça ne l'empêche pas d'être le petit déjeuner préféré du bar, qui est à son tour un de nos déjeuners préférés. Nous mangeons donc du bar pêché par des pêcheurs, du bar qui lui-même mange du lançon. Nous sommes donc pas mal à être reconnaissants du lançon, les mangeurs de bar et les pêcheurs de bar. Le lançon est un poisson qui aime bien se fourrer dans le sable, et c'est dans le sable dit coquillé qu'il fait ses petits, en Bretagne entre autres, et plus précisément dans la baie de Lannion. Seulement, il n'y a pas que le lançon qui aime le sable coquillé, il peut être utilisé comme fertilisant agricole et donc coûter très cher, ou plutôt rapporter très cher. Depuis 5 ans, ceux qui aiment les lançons et la compagnie armoricaine de navigation qui préfère le sable coquillé se font donc la guerre pour savoir qui pourra garder le précieux fond des mers. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron a tranché. Il a décidé de faire plaisir à la compagnie armoricaine de navigation en lui accordant l'extraction de 250 000 mètres cubes de sable par an. Mais attention, hein, pas pendant l'été, faut pas non plus faire n'importe quoi. Rappelons ici qu'Emmanuel Macron est ministère de l'économie et non de l'écologie, mais c'est un détail et tant pis pour le lançon.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, nous recevrons l'association Pai Pai qui anime les dimanches pluvieux et même ensoleillés, parfois des Angevins, une fois par mois. Ce sera juste après la chronique de Quentin, mais d'abord, nous sommes à l'été 2015. Dans 3 mois, vous êtes installés sur l'herbe, cale de la savate, à profiter du soleil au bord de l'eau. Et là...
Enfin, ils aperçoivent la terre. Je ne voyais ni mouton, ni chèvre, ni aucun autre animal. Mais ce que j'aperçus était aussi différent de notre monde que le jour et la nuit. Les plantes, les rochers, tout ce que je voyais était différent.
Au pied du château, une île verte, de l'herbe qui flotte, une plateforme végétale. Bonjour Neil Spinning.
Bonjour.
Vous êtes l'un des heureux parents de cette création fantastique dont on va parler tout de suite. À votre côté, Yves-Henri Guillonnet. Bonsoir. Vous faites partie de l'association En Face, tout comme Michel Beuchet. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous trois d'être en studio pour parler donc de cette plateforme végétale qui va voir le jour début juillet au pied du château sur la Maine. D'abord, comment vous est venue cette idée farfelue d'installer un îlot là, sur la Maine, entre le quai et le château ?
Alors, cette idée farfelue nous est venue simplement... On a monté une galerie associative.
La galerie En Face.
C'est ça. Il y a plus de deux ans maintenant. On avait envie de pouvoir montrer des formes artistiques qui ne sont pas montrables en galerie, donc qui sont dans un tout autre contexte. Et c'était ça qui nous portait, c'était aussi de pouvoir... montrer des formes d'art qui donc sont assez exclusives parce que faites pour le lieu et dans le lieu et de pouvoir aussi inspirer d'autres personnes par rapport à ces nouvelles formes d'art.
Et l'idée du végétal là-dedans, est-ce qu'elle est inspirée par Angers, cette ville verte comme on aime à l'appeler, ou en tout cas comme la municipalité aime à l'appeler, ou pas du tout?
Alors, cette idée du végétal, elle est surtout, c'est le végétal pour l'artiste, comme pour la médecine, comme pour la science, comme pour les nouvelles technologies. C'est une source d'inspiration qui est universelle, en fait. Donc, c'est simplement comme ça qu'est venue l'idée du végétal.
Alors cette plateforme végétale, elle sera constituée d'îlots hexagonaux, en tout cas c'est ce qui est prévu sur le projet initial dont on a pu voir des croquis sur internet, des îlots qui vont flotter sur l'eau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça va ressembler? Pourquoi est-ce qu'ils seront hexagonaux d'ailleurs ces îlots? Combien il y en aura? À quoi ça va ressembler?
Alors, la forme hexagonale, elle vient d'un souci de modularité, simplement. C'est une des formes qui s'imbrique magiquement les unes avec les autres. Donc, on a le modèle du nid d'abeille, hein, qui donc remplit toute une surface avec les formes hexagonales sans aucun vide. Ça crée aussi une grande résistance parce que la forme hexagonale est composée de 6 triangles et le triangle, c'est la forme la plus costaude.
Oui, c'est les trois pieds, effectivement. Puis c'est une forme naturelle qui était reconnue par l'homme dès le début, puisque ça fait partie des formes reconnues par la géométrie pythagoricienne. Donc c'est vraiment une forme qui s'impose, voilà, pour nous.
Et elles seront grandes comment, ces plateformes, enfin ces îlots qui vont constituer cette plateforme, ça va être de quelle taille?
Alors, imaginez-vous des hexagones avec des côtés qui font 3,50 m. Et donc, 3,50 m de côté, ça signifie de sommet à sommet opposé 7 mètres.
Et ils seront faits en quoi? Pour flotter et pour qu'on puisse aller dessus sans goûter à la même?
Alors,
ça doit être un casse-tête.
Pour la première année, on n'ira pas dessus.
Voilà, donc, ça c'est dit.
Voilà. on n'ira pas dessus, mais on souhaite contrer ce fait-là par une déambulation qui pourra se faire en petite embarcation.
Voilà. Et alors, comment est-ce qu'ils seront constitués?
Alors, de différentes manières.
Ouais.
Ça sera fait en grande partie en bois ou en métal et en plantes. Ça flottera grâce à des flotteurs qui sont récupérés d'industries agroalimentaires. Donc c'est une solution qui nous paraissait évidente, c'est de pouvoir réinvestir des objets, donc les recycler sans les transformer, donc avec une empreinte carbone donc en moins. Il n'y a aucune transformation entre le bidon qui est utilisé comme contenant et le bidon qui est utilisé comme flotteur.
Alors elle va être mise en place début juillet,
c'est
bien ça, donc j'imagine que vous êtes en pleine construction.
On est en pleine bourre même, comme on dit. Oui.
Vous êtes entouré de beaucoup de personnes.
Alors il y a des partenaires, on peut parler d'eux, effectivement. On a la chance d'avoir deux instigateurs, donc Nils et Amandine de la galerie en face, qui savent fédérer autour d'eux vraiment beaucoup d'énergie très positive et compétente et très éclectique. Et notamment, on a développé des partenariats avec l'école Agrocampus, l'école des Beaux-Arts aussi.
L'école des Beaux-Arts dont vous êtes issu, je crois, Amandine et Nils.
Oui, tout à fait. Et donc, y a une grande partie de la construction qui est assurée par les bénévoles, par l'équipe, on va dire, qui est autour de Nils et Amandine depuis le début. Et puis, une partie qui a été réalisée par les étudiants, donc les étudiants qui sont en cinquième année d'ingénieur agronome. Ils ont travaillé depuis le mois de janvier sur les plateformes et ils ont commencé la construction début mars, n'est-ce pas, Nils?
C'est ça.
Merci. Et c'est des partenariats qui vont se... Bon, c'est dans le cadre de leur formation d'ingénieur paysagiste. Ça fait partie, parce qu'on dit que l'école fait partie du réseau des écoles supérieures du paysage, comme Versailles, Blois, Lille, Bordeaux, Marseille, et elle délivre un diplôme d'ingénieur de niveau Bac plus 5. Donc le diplôme est reconnu au niveau international comme diplôme de paysagiste concepteur, et ça rentre complètement dans ce cursus pour eux. Donc il y a deux ateliers qui sont encadrés par un enseignant-chercheur de l'unité pédagogique paysage et par le collectif de la galerie en face. Et dans 15 jours de construction au mois de mars, ils ont déjà construit une bonne partie de la structure de base de deux plateformes flottantes. Voilà.
Donc ça, c'est pour les ingénieurs d'AgroCampus. Mmh. Et l'ESBA, l'École supérieure des beaux-arts, comment est-ce qu'elle s'inscrit, elle, dans le projet ?
Alors, l'École des beaux-arts, alors, du coup, ce sont les étudiants donc, qui travaillent principalement sur de la signalétique, sur des outils de vision, donc... le travail a déjà été amorcé. On ne sait pas encore à quoi est-ce que ça, à quoi est-ce que ça ressemblera, mais on a déjà quelques pistes.
Ils ont le champ libre là-dessus ?
Alors, en majeure partie, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire un va-et-vient et de faire une vraie collaboration, de ne pas leur laisser un cahier des charges et puis les laisser se débrouiller. Et en même temps, ben voilà, que ça crée un échange entre nous, échange de savoir, échange de plein de choses, quoi. Et puis, c'est le début de cette collaboration qui a donc démarré en début janvier avec ces écoles et qui sera plus active à partir de l'année prochaine puisqu'elle se reconduit. Et ça, c'est très important pour nous, c'est-à-dire que ce réseau qu'on met en place, c'est pas un réseau juste pour se lancer, pour essayer d'avoir des soutiens et des aides comme ça au dernier moment, mais c'est vraiment pour entamer quelque chose qui soit pérenne et solide et qui puisse permettre de rebondir, de créer des liens. Enfin, je crois que le fleuve, c'est ça aussi, quoi. Le fleuve, pour nous, se poser sur le fleuve, ça ne veut pas rien dire. Ça veut dire aussi retrouver cette espèce de passage, de lien dans la population et d'échange, et qui permettent de s'appuyer dessus tout au long de l'année. Je veux dire, les élèves des Beaux-Arts qui sortent de l'École des Beaux-Arts, c'est intéressant qu'ils y reviennent aussi un petit peu après, et qu'il y ait une transmission, et puis que les artistes qui ne sont pas passés par les Beaux-Arts puissent rencontrer les élèves des Beaux-Arts, et que tout ça puisse vivre, et que la dimension créative des élèves des Beaux-Arts rencontre la dimension créative et peut-être des fois plus pragmatique des élèves d'AgroCampus. Et tout ça est très très riche d'enseignement pour tout le monde, quoi.
Et en parlant de pragmatisme, est-ce qu'il y a eu des mauvaises surprises depuis le début de la construction en dur ?
Aucune.
Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit « Ah mince, ça n'a pas fonctionné, quoi ?»
Alors, non. Non, parce que le travail qui a été fait du coup par les étudiants d'AgroCampus, en grande partie donc pour le début de la construction des premières plateformes, il a été d'abord il y a eu une phase de conception et ensuite après avoir conçu, donc avoir eu toutes les idées de la forme, de comment ça pourrait flotter, de la mécanique, il y a eu du coup après tout un travail de métrage, de calcul des masses, de flottaison, etc.
Des trucs que je ne comprends pas personnellement.
Mais moi non plus, je ne t'inquiète pas.
Et donc pour être sûr que ça flotte, on a fait des essais. Et les essais sont très concluants, donc ça flotte bel et bien, et c'est pas prêt de couler.
Ok. Dans la présentation du projet, vous distinguiez quatre lieux sur cette plateforme, alors sans doute sur du plus long terme, peut-être pas à l'été 2015, mais vous distinguiez le jardin d'eau, le jardin sonore, le jardin scène et le jardin dôme. Vous nous faites visiter un petit peu cette plateforme. On a le visuel, on voit à quoi ça va ressembler, mais qu'est-ce qu'il va y avoir dessus ?
Alors, le visuel qu'on peut voir sur Internet, c'est surtout une forme d'ébauche. Mm-hmm. Donc, ce ne sont pas des visuels qui sont contractuels. Hein, ce que je peux dire, c'est que pour cette année, on a prévu de mettre trois plateformes à l'eau. Ça sera le jardin dôme. Ça sera donc un jardin de forme hexagonale qui comportera trois entrées. Du coup, on pourra naviguer en fait sous ce dôme. Donc ça c'est aussi pour pouvoir contrer au fait qu'on ne puisse pas monter dessus et les pratiquer, on pourra les pratiquer par le biais de l'eau, quoi. Les autres jardins qu'on va y mettre, ça va être le jardin suspendu. Donc il n'est pas encore créé là. On est en phase on est en fin de phase de conception. Donc on sait déjà à quoi ressemblera la structure. C'est une structure qui est assez intéressante, qui se compose de 6 éléments de compression, qui sont des barres, des tubes, et ensuite ces tubes sont mis en tension par du coup des éléments de tension qui sont des câbles. Ça peut paraître un peu abstrait quand on n'a pas les images, mais
il y a une dimension très architecturale, effectivement. Voilà,
ouais.
Aussi,
et donc ça provoque comme une impression que ces grandes tiges sortent de l'eau et sont dans un équilibre incertain. Tiennent comme par magie, en fait. C'est... Voilà.
Et le troisième îlot ?
Le troisième îlot, du coup, c'est la pêche miraculeuse. Donc, c'est un jardin qui est végétalisé seulement sur un pourtour, sur le pourtour de l'hexagone. Le milieu est donc vide, sauf qu'on pense y mettre une petite animation lumineuse. Voilà, donc il faut s'imaginer que ce jardin-là, donc, c'est avec le pourtour, sera en fait totalement immergé. Donc, avec un tirant d'air nul, quoi. Donc, ça fera comme des plantes qui sortent miraculeusement de l'eau de la Maine. Donc,
voilà. Et puis, on peut dire aussi que ces plateformes, ce sera à la fois une expérience physique, effectivement, et visuelle, puisqu'elles seront là, mais c'est aussi une histoire sensible au-delà de ces paramètres-là, dans le sens où il y a tout un aspect politique qui est développé, en termes de réversibilité, en termes de respect de la biodiversité, de la cohabitation des espèces vivantes, et notamment de l'homme, et que tout ça, on espère bien que ça va diffuser quelque chose qui, pour nous, est sincère au départ, et qui va être tangible dans l'existence de cette plateforme sur l'eau, à cet endroit où malheureusement, il n'y a plus grand-chose qui s'y passe, à part de la plaisance. Voilà. Donc tout ça va mener aussi notre travail cette année. C'est-à-dire que c'est pour ça, comme tu le disais tout à l'heure, que c'était cette année, toutes les plateformes ne seraient pas construites, parce qu'il y a une volonté de notre part d'aller à la vitesse aussi de la nature, d'aller à la vitesse de notre compréhension de tous ces enjeux qui sont très complexes, finalement, et de faire, de montrer aussi le processus de création, à la fois de ces plateformes et à la fois des œuvres artistiques qui vont pouvoir s'y produire.
Dont on parlera tout de suite, juste après Sufjan Stevens avec Drone to the Blood. Raoul. Merci Raoul.
I'm drawn to the blood, the flight of a one-winged dove. How did this happen? How did this happen? The strength of his arm, my lover caught me off guard. My prayer has always been love. What did I do to deserve this? With
blood on my sleeve. Delilah, avenge my grief. How, God of Elijah, how, God of Elijah, as fire to the sun, tell me what I have done. How, heart of a dragon, how, heart of a dragon, for my prayer has always been love. What did I do to deserve this now? How did this happen?
Ce soir dans le sous-marin, on parle de la plateforme végétale qui verra le jour cet été sur la Maine en compagnie de Niels Penning, Michel Beuchet et Yves-Henri Guillonnet de l'association En Face à l'origine de ce projet. Maintenant qu'on a un peu décrit la structure, on l'a visité, tout ça, qu'est-ce qui va se passer dessus ?
Alors, qu'est-ce qui va se passer à côté ?
À côté. Oui, bah oui, c'est vrai, pardon.
Parce qu'on ne monte pas sur la structure. Le public ne pourra pas y accéder cette année. Donc, en fait, sur la berge de Maine, il va y avoir un inventaire de la flore et de la faune qui va être effectué par un ami à moi, puisque je travaille au Musée d'Histoire Naturelle, ici à Angers. Et de cet inventaire, il y aura certainement des propositions de parcours qui seront faites au public pour découvrir les quelques plantes un petit peu emblématiques du coin, quoi. Voilà, ça c'est une des pistes qu'on a pour l'instant.
Autre piste pour...
Alors, parmi les autres pistes, il y aura du coup de l'accueil sur la berge. On envisage d'y installer des ateliers créatifs, des ateliers où on s'inspire de ce qui nous entoure. On envisage aussi des concerts, donc ça de manière ponctuelle, hein, donc ça ne sera pas forcément avec une cadence de dingue, hein, mais voilà, donc...
Puis ce qui nous intéresse, c'est encore une fois de monter, que le processus de création fasse partie aussi intégrante de cette proposition artistique et poétique, et que du coup ce soit un lieu d'expérimentation, donc de vie aussi, et que ce qui va être proposé va être aussi large que ce qui peut être proposé en spectacle vivant ou en poésie de toute façon. Donc ça peut être très bien des arts du cirque jusqu'à la musique, un duo de chansons, jusqu'à un groupe de musique improvisée, comme effectivement des choses qui sont plus de l'ordre de la construction d'une œuvre. Voilà.
Est-ce qu'on peut parler d'argent maintenant ? Parce que cette plateforme, elle a dû être financée, j'imagine. Vous avez lancé un financement participatif, je crois qu'on dit crowdfunding en anglais, sur le site Ulule. Et sur cette plateforme, vous indiquiez que le budget final atteindrait en gros 80 000 euros. Sur Ulule, vous aviez un objectif de 6 000 euros qui ont été largement atteints puisqu'ils ont même été un petit peu dépassés. Vous avez également 10 000 euros de dette de Maine-et-Loire. Le reste, comment est-ce que vous allez faire pour financer ce beau projet ?
Alors, le reste, c'est beaucoup, beaucoup de travail bénévole. Donc, ça représente une très grosse partie du budget parce qu'il est clair que si on devait payer donc toutes les compétences qui travaillent activement sur le projet, ça nous coûterait plus que 80 000 euros. Et donc c'est valorisé par beaucoup de travail bénévole, par aussi de l'aide donc de la part de d'entreprises pour de l'apport en nature. Et aussi, bien sûr, Ulule est terminé maintenant, mais on accepte toujours les dons pour contribuer du coup à cette
effectivement à cette on est toujours en recherche de dons de toute façon, et puis même l'année prochaine et dans 2 ans et dans 3 ans et,
voilà.
Et
parce aussi, que bien sûr cette plateforme est amenée à
elle est évolutive voilà. Et tous les ans elle va s'augmenter encore. Et tous les ans elle va s'augmenter au gré de l'inspiration dont parle Nils, qui est vraiment central dans notre volonté. Et puis on cherche aussi évidemment des aides, on crée des chantiers participatifs de construction. Là, pendant tout le mois de juin, on va être sur la berge de la Maine, donc qui est en face du quai, ou en tout cas dans ces environs-là, puisque on ne peut pas définir précisément l'emplacement encore, puisqu'il y a encore des contraintes, enfin encore le rythme du fleuve, on va dire. Donc, mais en tout cas, ce sera dans cette zone-là. Et puis d'ores et déjà, dès la semaine prochaine, dès lundi, hein, il y a des ateliers de construction. Alors, d'éléments. C'est mardi, pardon Nils.
Mardi, mercredi, jeudi.
Donc la précision est du côté de Nils Binning. et donc pour ces ateliers, on invite toutes les personnes qui sont intéressées à joindre la galerie, volonté, ouais. donc galerie en face @gmail.com, n'est-ce pas, je crois.
C'est ça.
Pour se signaler s'ils ont des envies d'être au courant de ces chantiers, du contenu de ces chantiers, voilà, pour partager cette aventure avec nous.
Voilà, parce que par exemple, la semaine prochaine, ça sera un chantier Kokedama.
Qu'est-ce que c'est les Kokedama?
Les Kokedama, ce sont des mottes de terre qui sont englobées de mousse et dans lesquelles on plante des plantes qui poussent ensuite, qui se développent dans cette motte, et cette motte est suspendue. Voilà, donc ça fait comme des petites planètes végétales. C'est très joli. C'est donc un art floral japonais qui est né dans les années 60, il me semble.
Et donc tout le monde peut venir la semaine prochaine à la galerie en face.
Voilà.
Ou
donc
faut s'inscrire avant.
Alors c'est pas à la galerie en face que ça se passe. C'est,
en tout cas, c'est par la galerie en face, effectivement, qu'ils ont toutes les informations. Oui. Et c'est bien si les gens peuvent se signaler. Après, d'accord, ils seront tenus au courant. Il y a des outils qui sont mis en place pour ça.
Voilà. Tout donc pour des inscriptions, etc.
Voilà.
Un petit mot rapide peut-être sur l'actu de la galerie en face, Nils. À partir de jeudi, en tout cas jeudi, c'est le vernissage de la 19e expo de la galerie.
C'est ça.
Ça s'appelle Incontournable Contour, avec Pierre Brunelière et Anne Auguste. En quelques mots, pour présenter l'exposition.
Alors, je ne vais pas tout dévoiler non plus, parce que sinon, il n'y a pas de mystère. Mais ce que je peux dire, donc, c'est que Anne Auguste est peintre. Elle confectionne des tableaux qui sont sous forme de papier suspendu. Et alors, ça ressemble pas vraiment à du papier, parce que avec l'accumulation de matière, du coup, ça en change la nature. Et ce sont comme des patchworks qui sont peints recto verso. Et du coup, l'artiste laisse aux visiteurs, à la personne qui regarde l'œuvre, la possibilité de la modifier en tournant quelques éléments. Et Pierre Brunelière, c'est un artiste peintre aussi, qui est aussi céramiste. Et donc... lui, il peint beaucoup avec de la matière, encore une fois, hein, ça peut être avec des journaux, avec du papier déchiré, des chiffons d'atelier qu'il réinvestit pour faire ressortir des formes, des êtres mythiques, en fait, qui l'habitent. Et au niveau de sa céramique, ce sont des personnages qui sont dans un équilibre, qui du coup cherchent des contours, et d'où le nom de l'expo aussi, incontournable contour.
Très bien, donc c'est donc à partir de jeudi à la galerie en
jeudi
face.
Jeudi soir à 19h.
C'est noté, et puis la plateforme, on ira se promener autour, pas dessus s'il vous plaît, à partir de juillet. Merci beaucoup Nils Binning, Michel Beuchet et Yves-Henri Guillonnet d'avoir
merci
été dans le sous-marin.
Merci beaucoup.
This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you. Minutes now until ignition for powered descent. Everything's still looking very good at this point.
Okay, all flight controllers, gotta go for powered descent. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for powered descent.
We're off to a good start. Play it cool.
Okay, all flight controllers, I'm going around the horn. Okay, retro, go. Fido, go. Guide. Go! Control.
Go.
Telcom.
Go.
GNC.
Go.
Ecom.
Go.
Surgeon.
Go.
Retro.
Go.
Fido.
Go.
Guidance.
Go.
Control.
Go.
Telcom.
Go.
GNC.
Go.
Ecom.
Go.
Surgeon.
Go.
Capcom, we're go for landing. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar.
75
feet, down and a half.
1202 alarm. 60 seconds. We're going,
that flight. We're going, that
alarm.
40
feet, down, 2 and a half.
If it does 3
and
4,
we'll be go.
30
seconds.
Over. 12 and 1.
12 and 1. Roger, 12 and 1 alarm. 12 and 1
alarm.
Stand tight,
we'll go,
flight. Okay, we're go. We've had shutdown. Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Okay, keep the chatter down in this room. T1, stand by T1. Stay no stay, all flight controllers. Retro.
Stay.
Fido.
Stay.
Guidance.
Stay.
Control.
Stay.
Telcom.
Stay.
GNC.
Stay.
Ecom.
Stay.
Surgeon.
Stay.
Retro.
Go.
Fido.
Go.
Guide.
Go.
Control.
Go.
Telcom.
Go.
GNC.
Go.
Ecom.
Go.
Surgeon.
Go.
Retro.
Go.
Fido.
Go.
Guide.
Go.
Control.
Go.
Retro.
Go.
Fido.
Go.
Guide.
Go.
Control.
Go.
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 C'était Public Service Broadcasting avec Go.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et désormais, on retrouve Quentin pour sa deuxième chronique sous-marine. Salut Quentin.
Bonjour Tiffaine. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous parler de la candidature de Paris pour les JO de 2024. Donc c'est hier que le conseil de Paris, c'est-à-dire le conseil municipal, a approuvé la candidature de la capitale aux Jeux Olympiques de 2024. La candidature officielle pourrait être envoyée par la poste direction Lausanne le 15 septembre prochain selon la maire de Paris, Anne Hidalgo. Mais si nous retournions un peu en arrière, en 2008 par exemple, oui, à Pékin, là où des quartiers entiers ont été vidés de leur population pour la simple construction d'un village olympique, et où le coût total a dépassé les 32 milliards d'euros, alors que le coût estimé était d'à peine 2,6 milliards. 32 milliards d'euros, c'est 40 fois le coût du yacht le plus cher du monde, estimé à 800 millions d'euros. Bon, ok, c'est peut-être un peu loin. Alors, revenons en 2012, où les jeux vidéo avaient élu domicile dans la capitale de nos voisins britanniques. Là aussi, ils ont eu des surprises. En pleine crise financière, ça a coûté beaucoup plus. Presque 11 milliards, soit le double initialement prévu. Un soulagement, et pas des moindres, pour notre ancien président Jacques Chirac, après avoir perdu face à Tony Blair en 2005, lors du choix final pour la ville qui accueillerait les JO. Donc, être ou ne pas être une ville hôte, telle est la question. Parce que oui, le budget prévu n'est que de 6,2 milliards d'euros. Grâce à toutes les infrastructures déjà construites, qui représentent pas moins de 80% des installations nécessaires pour accueillir les Jeux, le budget prévisionnel fait un régime. Anne Hidalgo a annoncé en novembre dernier, je cite, « Les Jeux dispendieux, je crois que ce n'est plus du tout d'actualité ». Mais ne serait-ce pas utopique de penser à des JO si peu coûteux alors que les précédents ont plus que dépassé leur budget prévisionnel ? Selon notre cher président François Hollande, le 1er décembre dernier, je cite, « Ça fera plein d'équipements avant, plein d'emplois, plein d'industries qui pourront se montrer ». Oui, monsieur le président, ça fera de la publicité pour les entreprises, des emplois seront créés, mais le bonheur sera de courte durée. Comme en 2010, en Afrique du Sud, où des entreprises de BTP ont licencié massivement après la construction des différents stades. Après le vous vous est là, la boîte à caquettement peut-être. Même en pensant aux millions de touristes qui pourraient ramener du blé aux différentes entreprises de la capitale, est-ce que cela va vraiment être bénéfique en sachant que Paris fait déjà partie des trois villes les plus touristiques du monde ? Mais soyons plus positifs, cela pourrait bien engendrer des bénéfices sociaux, comme inverser la courbe du chômage, ou même des bénéfices routiers. En effet, le réseau routier serait restructuré afin de faciliter l'accès des différents lieux sportifs. Un bonheur pour les Parisiens, qui deviendront peut-être plus accueillants et joviales, et même pour nous, pauvres petits provinciaux, qui poussons un peu une gueulante à chaque fois que sur nos voyages sur le périph. Des milliers de logements seront aussi construits. Une accélération de la transition écologique est aussi prévue et permettrait à Paris de faire oublier ses épisodes de pollution intense, sa circulation alternée absurde et de passer au vert. Oui, j'avoue, cette petite fierté nationale que cet événement pourrait nous rapporter me fait un peu rêver. Maintenant, il faudra que le budget escompté suffise et que les promesses sociétales et routières soient tenues. Il nous reste à attendre l'été 2017 que le Conseil Olympique prenne sa décision pour les Jeux de 2024 et espérons battre les trois villes rivales déjà déclarées, Rome, Hambourg et Boston.
Merci Quentin.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
C'est en 2011 que l'asso Pai Pai a vu le jour. L'asso Pai Pai qui, comme on peut lire sur le site internet, a voulu proposer une culture à une échelle plus humaine. Et dans le studio, on accueille donc son vice-président Adrien Salomé. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Robin Aliel, le chargé de communication de l'asso. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est quoi une culture à échelle plus humaine ?
Une culture à échelle plus humaine, c'est peut-être déjà une culture de quartier. On n'est pas obligé de trouver la culture à 10 bornes de chez soi. Il y a peut-être juste à regarder à sa fenêtre et trouver quelque chose qui peut nous plaire ou au moins nous faire nous évader le temps d'un instant, une après-midi, comme on aime bien faire le dimanche, souvent, des concerts. Pour voilà, une culture à petite échelle, c'est ça. Entrer chez nous, observer, oui, apprécier.
Et c'est aussi un accueil plus familial parce qu'on fait la plupart de nos événements dans la maison associative, donc, qui est au quartier Ney. Et on reçoit dans notre salon, en fait, parce que la maison, à la base, c'est une colocation avec 4 personnes. Nous, l'association, on prend une partie de la maison pour nos activités, on prend la cave pour faire une salle de répétition, le salon pour faire nos expositions et les concerts le dimanche principalement, et puis un bureau en haut et puis une autre cave où c'est un atelier bois plutôt. Et donc ouais, c'est ça aussi, c'est recevoir vraiment chez nous dans notre salon. Donc.
C'est une réaction et une culture peut-être plus institutionnalisée qu'on peut connaître à Angers et qui... Est-ce que selon vous, cette culture-là, elle prend trop de place sur le terrain angevin ?
Je ne sais pas si elle prend trop de place. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est une culture qui est peut-être un peu trop massive. Et du coup, ce qui fait qu'on néglige les acteurs locaux et ceux qui ont peut-être juste de la bonne volonté. Voilà, je pense que c'est ça.
Et c'est aussi ouais, essayer de promouvoir, comme tu dis, les acteurs locaux et, voilà, et aider ceux qui ont envie de se professionnaliser dans cette voie en leur proposant donc, nos services, entre guillemets.
Sur lesquels on va revenir ouais. Dans un instant. Quentin ?
Donc, Pai Pai, comme vous l'avez dit, c'est une maison partagée par 4 membres de l'association. Et vous proposez des concerts, comme vous l'avez dit, un dimanche par mois. Et comment, à quoi ça ressemble un dimanche chez Pai Pai ?
Bah, je vous propose de venir dimanche prochain pour le voir.
Pour le concert d'Alex Grenier.
19 avril, ouais. Exactement, Alex Grenier. Donc en plus, ça nous fait très plaisir parce qu'il y a Jacob Trépizur, contrebasse, et Émilie David, qui sont des habitués de la maison, des amis. Donc voilà,
ouais, c'est Jacob, un grand moment. Jacob habite dans la maison depuis, ouais, depuis ouais. le début de l'association.
Voilà, donc c'est un plaisir.
Donc vous voulez pas du tout nous dire à quoi ça ressemble pour ceux qui sont encore jamais venus aux rues du Pré-Pigeon?
Et bah, c'est un salon assez grand, c'est un double salon où on aménage une petite scène donc sur des palettes avec un tapis. Enfin, c'est bien fait, mais c'est fait maison, on va dire. Et on a un petit bar associatif où on donne des bières, différentes boissons. On essaie de faire de la restauration aussi pour tous nos événements. La dernière fois, c'était des croque-monsieur, là, on fait la même chose. Et puis voilà, le concert commence... enfin, on ouvre nos portes à 17h et le concert commence vers 18h, 18h15. Et en général, c'est deux sets de trois quarts d'heure et puis avec une petite pause. À la pause, tout le monde est dehors. Enfin, c'est sympathique.
C'est du plaisir.
C'est du plaisir.
17h à l'heure où ça n'embête pas trop les voisins aussi, vous le précisez.
Mais les voisins sont souvent chez nous, je pense.
Ouais. Donc, bah... durant les derniers mois, votre programmation a été très jazzy, hip-hop et voire même psyché. Mais comme vous l'avez dit, c'est aussi des copains avec Jacob
Trépizur.
Voilà, qui joue avec Alex Grenier. Mm-hmm. Et ça limite pas vraiment, ça limite un peu. Enfin, est-ce que vous limitez le type musical dans votre association ou c'est
Bah non, comme tu l'as dit, il y a eu du jazz, du hip-hop, donc et autre chose. On a même accueilli Camilo et sa maman, qui était un concert plus vocal Amérique du Sud et tout, très intéressant. Et donc non, on limite pas. Il y a toujours une esthétique dans ce qu'on fait. Il faut que ça nous plaise. Avant tout, on n'est pas deux à décider ou trois. On est une vraie équipe à réfléchir à qui on pourrait faire venir pour que le public soit convaincu, apprécie, et même s'il n'apprécie pas, au moins découvre quelque chose.
En plus des événements, enfin en plus de ces événements, en plus vous accompagnez des projets musicaux, vous encadrez la promotion, l'enregistrement de maquettes, vous avez rénové le lieu de répétition. Il manque des structures comme Pai Pai à Angers selon vous?
Bah, il en manque pas puisqu'on est là.
Mais avant,
on remplit le vide.
Avant, ouais, bah on remplit le vide, ouais. Bah on est, ouais, faut pas qu'il y en ait trop.
Non, en fait c'est juste on propose autre chose quoi. On sait qu'il y a des endroits où on peut louer des salles de répète pour quelques heures. Nous on propose ça donc chez nous. Il y a l'ambiance qui va avec. C'est tranquille. En même temps c'est quand même bien organisé. Notre matos c'est bien. Et puis on est en centre-ville, quoi. On sait qu'il y a pas mal de monde qui va au Shabada. Il faut quand même prendre la voiture pour ceux qui sont en centre-ville. Là, c'est quand même sympathique, quoi.
Est-ce qu'on peut avoir des noms peut-être d'artistes qui ont été accompagnés par Pai Pai ces derniers mois, qui sont venus chez vous pour répéter, enregistrer des maquettes?
Alors, on a donc Nervous Breakdown, un groupe de rock. En ce moment, il y avait Dajanem, un rappeur angevin. Ça, et puis on a accueilli ici, quand même important, pendant une semaine, des Brésiliens qui sont venus faire donc du hip-hop à Angers, c'était au mois de novembre. Donc pendant une semaine, il y a eu un accompagnement avec Pai Pai, ils ont été à la maison, ils ont utilisé la structure qu'on avait à disposition. Concert au Terror Coco aussi dans la semaine. Donc voilà, c'était un peu un packaging, c'est une semaine qui était assez exceptionnelle, mais c'est tous les services qu'on peut proposer. On avait Tomahawk qui était au Shabada récemment, qui répète aussi à Pai Pai. Donc c'est ouvert vraiment à tous. Ouais.
Vous proposez également ce qu'on appelle des workshops quand on parle anglais. Qu'est-ce que c'est? À qui est-ce que c'est ouvert? Alors, vous allez me dire, oui, il faut aller voir, le prochain, c'est vendredi.
C'est
bon, vendredi à partir de 14h avec, on va le dire, le saxophoniste et clarinettiste Mathieu Donarier. D'ailleurs, est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour ce workshop-là?
Oui.
Oui, c'est tout.
Les workshops, en quoi ça consiste? Qui est-ce que vous invitez? Et est-ce que c'est toujours axé jazz?
Alors, pour ce qui est de l'invitation, c'est Elias Delaunay qui s'en occupe, donc un musicien tromboniste angevin. Et nous, en fait, Pai Pai, on met à disposition notre salle de répétition pour qu'il puisse faire le workshop l'après-midi. Donc, ça consiste à préparer des morceaux pour le jam du soir qui a lieu au T-Rock, en fait. La jam, où. Donc, en gros, ils vont préparer 4-5 morceaux de jazz avec les partitions qui sont disponibles sur notre site web. Donc les gens, avant de venir, ils peuvent s'entraîner. Là, ils sont accompagnés donc par l'invité et par un professionnel, Elias, qui est là pour aiguiller les gens pendant le workshop. Et ensuite, tout ce qui a été travaillé l'après-midi s'est restitué le soir au T-Rock de 21h à 1h. Ils restituent ce qu'ils ont vu l'après-midi.
Vous avez tissé des liens très étroits avec le T-Rock, d'ailleurs, on peut le dire. Vous travaillez en collaboration presque.
Oui, et puis parce que Arthur a été en fait à la base de l'association PayPay. C'est lui qui l'a relancé avec Gaël Coiffard, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc on est liés déjà amicalement et intimement, entre guillemets. Et de plus, voilà, le T-Rock est un café-concert à Angers, comme beaucoup de gens le connaissent. A été un des premiers café-concerts. Ça a été un renouveau, ce qu'ils ont amené. Donc on aime ce lieu et ce qu'ils promouvoient. On est vraiment dans cette même optique, en fait. Toujours une esthétique qui est très importante pour que ce soit au T-Rock ou à PayPay, et promouvoir la musique de manière globale. Voilà, on propose quelque chose, venez voir, on ne force personne à le faire, voilà.
Vous organisez aussi des événements dans les écoles avec les ateliers PayPay. C'est une envie de ramener la culture et l'art directement dans les écoles?
Alors pour l'instant ça c'est en projet, on est en train de créer tous nos ateliers pour l'année prochaine, là on est en gros travail dessus. Et le but c'est en fait, l'association PayPay elle regroupe pas mal de musiciens, on a quand même un réseau sur Angers assez important. Et le but, c'est de se servir de ce réseau pour proposer des ateliers aux écoles et puis donner des activités aux musiciens qui souhaitent le faire, quoi. Donc on est en train de monter plusieurs ateliers qu'on va proposer aux écoles et autres.
Dès la rentrée
de septembre.
Hormis la musique PayPay, vous offrez aussi une carte blanche à un cuisinier une fois par mois. On notera que le prochain repas, ce sera avec Charles Mélisson le 27 avril, donc dans 2 semaines, quelque chose comme ça. Ça, c'est une idée qui vous est venue comment? Vous aimez la bonne bouffe et puis vous êtes dit ça va avec la musique.
En fait,
on va pas manger que des croque-monsieur.
C'est ça.
depuis longtemps, PayPay voulait faire un service de nourriture, de restauration. Et pour différentes raisons, ça, on n'avait pas eu l'occasion de le faire. Et là, enfin, vu qu'on a fait pas mal de travail dans la maison pour mieux recevoir le public et mieux recevoir les artistes aussi, on est en capacité maintenant de recevoir pour un repas le midi. Donc là, c'est une vingtaine de couverts. Et on a la chance d'avoir dans nos amis Charles Mélisson, qui est vraiment un super cuisinier. Il travaille entre autres au Favre d'Anne.
Oui, donc
C'est vraiment une chance de l'avoir avec nous, et donc là il s'est proposé de faire ça, on a accepté, et on va voir ce que ça donne. Là c'est notre première, là. Mais ça devrait bien se passer.
Dans l'association PayPay, combien vous comptez de membres environ?
Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette association?
Alors il y a 20 membres actifs, on va les appeler les membres actifs, qui sont là au quotidien ou sur les événements pour donner des coups de main ou avoir un rôle spécifique dans l'association, et plus largement il y a 600 adhérents à notre association, voilà.
Comment vous financez, on va dire, votre lieu, enfin, c'est votre maison, on va dire, en quelque sorte, c'est financé par le biais de l'association?
Alors, pour l'instant, l'association loge chez les colocataires, donc pour l'instant, c'était un arrangement comme ça, mais vu qu'on est en train de développer l'association, on est en train de réfléchir aussi à tous les moyens financiers qui vont avec. Mais pour l'instant, ça marche à l'huile de coude, quoi, clairement. Quoi.
Beaucoup de transpiration.
Ouais, beaucoup, beaucoup.
Bon, à la base, il était question d'un événement par mois à PayPay. Aujourd'hui, rien que pour le mois d'avril, on en compte 3, le workshop, le concert et puis le repas du 27 avril. Vous allez vous arrêter quand? C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que...
À partir de septembre, on espère faire plus encore.
Oui, on est qu'au début, comme on vous dit, il y a beaucoup de premières. Notamment, on met aussi en place des siestes électroniques le 10 mai. Donc c'est un peu une exclusivité parce que c'est pas encore affiché, quoique peut-être. Mais... Bref, donc voilà, on se tente, on fait des expériences qui vont être bonnes parce qu'on a plein de bonnes volontés, on a les acteurs qu'il faut pour développer ces expériences. Donc en septembre, ça sera, j'espère, 2 fois plus.
Ouais,
et encore mieux structuré, bien évidemment. Et on parle d'Angers, mais notre but peut-être ce serait de s'exporter dans la région, faire des ateliers, on peut en faire partout dans la région. C'est pour ça qu'on aime bien ce concept, c'est qu'à un moment il faut qu'on s'exporte, organiser des soirées autre part. Le T-Rock Coco, c'est des amis, mais il y a d'autres structures sur Angers qui pourraient nous le permettre, ou à Nantes ou autre. Donc on se ferme aucune porte en fait. on gamberge et on avance.
Mais ouais, le but globalement c'est d'aller toujours un peu plus loin, voilà, avec l'assaut, quoi.
Voilà, et toujours rester, comme je le répète, mais dans une esthétique qui nous convient à tous. Mmh. Voilà.
On n'a donc pas fini d'entendre parler de Pai Pai. Les prochains rendez-vous, on répète, donc c'est vendredi à partir de 14h pour le Jazz Workshop, dimanche à partir de 17h à Alex Grenier.
Tout à fait.
Et puis le 27 avril, une bonne bouffe cuisinée par Charles Mélisson. Et donc, on l'a noté, cette petite exclue, 10 mai, sieste électronique. Merci beaucoup Adrien et Robin d'avoir été dans le sous-marin.
Merci à vous.
Je vous propose d'écouter donc Alex Grenier pour se mettre en jambe d'ici à dimanche avec Running.
Sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perne de ce soir, ça se passe au quai dans le cadre du festival Cirque plongé dans les limbes d'Étienne Saglio à partir de 20h30. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore. Hier soir, Étienne s'est branché chez Homewax pour la galette partie avec Alex de Zenzile en invité.
Talking Heads, énorme morceau là, franchement, là, pour l'instant, grosse claque de l'émission, alors ça groove
Et c'est ce que disait Alex pendant le morceau, c'est on reconnaît vraiment la patte Eno, quoi.
Et puis ouais, il y a...
De toute façon, c'est produit par lui, donc de toute façon,
ouais, bah,
obligé de le... Et ce côté minimalisme, que, minimaliste quand même, quoi.
Un peu world aussi sur les bords, bah, ouais. Avec les petites voix arabisantes, ouais. Indiennes, c'est grosse, on a une grosse production.
Ouais, ouais, ouais. Et puis super efficace. Et... Ah ouais, non, franchement, gros c'est boulot. Bon. Et donc, ouais, on disait, ouais, bah, la patte Brian Eno, et ce que tu disais, qui a commencé au début, qui n'était pas forcément producteur et qui est arrivé là sur 2-3
ans. Bah, en fait, qui était clavier de Roxy Music.
Ouais.
Il a commencé comme ça.
Exactement.
Enfin, un homme qui était
producteur
quand même.
De la plus grosse période.
Il s'est pris vite la tête avec Brian Ferry et puis il était un peu bien perché à l'époque, quoi. Et... Il a commencé à faire ses trucs tout seul, à bien voyager, à produire. Il a quand même produit des Bowie.
Ah bah les Bowie, la période berlinoise, c'est lui, quoi.
Enfin, il a produit des U2, enfin, il a produit tout ce qui se fait de mieux en musique dans le monde.
Dans un instant, dès 20h, vous retrouvez Sine Qua Non. Merci à Quentin et à Julia. Merci à Raoul pour la réalisation. On se retrouve demain à 19h. On se penchera sur la cité des objets connectés. D'ici là, passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.